Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Il fait encore nuit noire. Impossible de visualiser l'ennemi, mais déjà les échanges de tirs sont intenses. Dans la lueur et la brume de l'aube, au loin, des tanks apparaissent. Et toujours se déluge le feu.
C'était en novembre dernier sur LCI, la guerre en direct, mais dans son salon. Un document terrible, les tranchées près de la ville d'Avdivka, avec les soldats ukrainiens attaqués de tous les côtés. L'enfer façon 14-18, mais en 2023. Les Ukrainiens ont fini par abandonner leur position faute de munitions. Ils reculent, mais ne veulent pas plier 2 ans après le début de l'invasion russe.
Твою ласку я чую, рідненька.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, un programme disponible sur leséchos.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming.
Ce samedi matin, on peut déjà dire que Avdiivka est tombée. Le général Sirski, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, l'a annoncé formellement en disant que ses forces se sont retirées pour sauvegarder les vies des soldats.
La pression était devenue trop forte face au bombardement incessant de la Russie. Le rapport de feu était devenu disproportionné. Fin janvier, la Russie tirait 15 fois plus de missiles, de drones et d'obus que l'Ukraine. Kiev manque de munitions, alors qu'aux États-Unis, les républicains freinent l'aide apportée au pays quand la Russie s'approvisionne massivement auprès de l'Iran et de la Corée du Nord. Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Bonjour Guillaume Tack.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes correspondant des Échos en Ukraine. Les nouvelles du front ne sont pas bonnes pour Kiev ?
Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne débutée en juin dernier, les Russes avaient progressivement repris l'initiative sur plusieurs secteurs de la ligne de front en multipliant les assauts contre les villes notamment de Vougledar, de Kupiansk, d'Avdivka, ainsi que dans les environs de Bakhmout vers la ville de Tchassiviar. Donc la situation est devenue assez compliquée et est aggravée par la pénurie de munitions dont souffrent en ce moment les soldats et les artilleurs ukrainiens parce que l'aide militaire pour l'Ukraine s'est raréfiée et surtout l'aide militaire américaine est toujours bloquée au Congrès, à la Chambre des représentants. Par conséquent, les Ukrainiens ont été obligés d'adopter une posture défensive et les Russes gardent toujours l'initiative.
Guillaume, vous vous êtes rendu mi-février près d'Avdivka pour couvrir la retraite des troupes ukrainiennes. Vous avez publié sur votre compte Twitter quelques vidéos. On peut voir des carcasses de véhicules, un rideau de fumée au loin. C'est très éprouvant pour les soldats que vous avez rencontrés.
Oui, ça l'a été énormément. Il faut savoir que lorsqu'on s'est rendu sur place dans ces villages, dans la direction d'Avdivka, je me suis rendu sur place avec ma collègue américaine Madeleine Kali et mon collègue polonais Patrick Jarasz. Et à ce moment-là, en fait, la situation était particulièrement fluide. Le jour même, le haut commandement ukrainien avait annoncé la retraite hors de la ville. En revanche, on n'était pas absolument sûr d'où se trouvait la ligne de front, à quel niveau les Russes avaient déjà avancé. Par conséquent, situation fluide, assez tendue, les soldats que nous avons rencontrés, c'est bien simple, l'un d'entre eux a décrit la situation à Avdivka comme l'enfer sur terre. Il nous a raconté avoir dû marcher pendant 7 à 8 heures pour échapper à l'encerclement avec l'un de ses camarades avant d'être pris en charge et récupéré par des membres de la 53e brigade de l'armée ukrainienne. Donc ça a été extrêmement éprouvant pour les soldats qui se trouvaient sur place Et ceux qui ont réchappé à l'encerclement s'estimaient tous très chanceux d'être encore en vie.
Ouais, de la chance d'être encore en vie, la situation est très difficile, hein, vous ont confirmé les soldats. Vous avez notamment rencontré Denis, il a 22 ans, il s'est engagé dès le début de la guerre. 2 ans de guerre et toujours vivant.
Effectivement, 2 ans de guerre, toujours vivant, et comme il le disait lui-même, un peu par miracle. Il faut savoir que lorsqu'on l'a rencontré devant la devanture d'un petit commerce dans le village de Novoselivka, qui était en fait le long de l'unique route d'évacuation utilisée par les soldats ukrainiens pour quitter Avdiivka. Il avait le visage maculé de boue, les mains aussi tremblantes. Il fumait cigarette après cigarette. Et il nous a raconté qu'en fait, il s'est engagé volontairement au début de l'invasion russe le 24 février 2022, mais avait principalement occupé des positions de garde, en fait, de sécurité, à garder des entrepôts avec des armes, des véhicules, et qu'en fait, sa première affectation dans une zone de combat, c'était Avdiivka, une semaine et demie avant la retraite hors de la ville. Donc, comme il le décrivait lui-même, ça a été un baptême du feu particulièrement difficile.
Les Russes ont fini par prendre Avdiivka, c'est l'une de leurs rares victoires pour l'instant sur le terrain. Abandonner la ville, ça a été une décision difficile à prendre pour le commandement ukrainien.
Alors, évidemment, je ne suis pas dans la tête des décideurs militaires ukrainiens. Je pense que abandonner n'importe quelle ville, village, le moindre mètre de terre ukrainienne à l'envahisseur russe, c'est toujours difficile, dans le sens où nous savons pertinemment ce qui suit la soi-disant libération promise par la Russie, à savoir des fosses communes, à savoir de la torture, des exécutions sommaires. Par conséquent, la décision évidemment a été difficile, d'autant plus que Avdiivka était devenue depuis 2014 une sorte de symbole en fait, une petite ville de à peine 30 000 habitants en 2013, qui avait été initialement prise par les milices séparatistes armées soutenues par la Russie en 2014. Quelques mois après, avait été libérée par l'armée ukrainienne et depuis lors, en fait, elle se dressait face à la ligne de front, c'est-à-dire que face au dernier quartier résidentiel d'Avdiivka, vous aviez des champs de mines, puis des tranchées, et on devinait au loin, en fait, la cime des bâtiments de Donetsk. À titre personnel, je me suis rendu pour la dernière fois à Avdiivka avant le début de l'invasion à grande échelle. Et c'est vrai qu'il y avait déjà le sentiment que cette ville avait déjà énormément souffert de 8 ans de guerre. Donc, l'abandonner comme ça, c'est une victoire sans doute plus symbolique que véritablement stratégique pour les Russes, mais c'est néanmoins un symbole qui fait mal pour les Ukrainiens.
Une décision prise pour sauver de nombreuses vies, hein, c'est l'explication donnée par les autorités ukrainiennes. Il y a eu aussi un changement d'ordre militaire avec le remplacement du général Zaloujny par Oleksandr Sirski. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, vous le faites bien mieux que moi. Qui est ce nouveau général et que peut-il apporter ?
Alors, le général Sirski, ta prononciation, Pierrick, est très bonne. Il faut savoir que c'était lui l'architecte de la défense de la capitale, Kiev, dans les premiers jours et premières semaines de l'invasion. C'est plutôt à son crédit qu'il faut mettre la contre-offensive éclair en septembre 2022 qui a libéré quasiment l'intégralité de la région de Kharkiv. Donc, c'est un commandant expérimenté. C'est un soldat de métier qui a des compétences de stratège évidentes. Cependant, il remplace Zaloujny, dont la cote de popularité était énorme auprès de la population ukrainienne, et certains lui attribuent une mentalité soviétique, à savoir une propension à sacrifier les hommes pour garder coûte que coûte le contrôle de telle ville ou tel village. Alors, évidemment, c'est difficile de juger de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Les soldats qui sont sur le terrain, généralement, se plaignent toujours du commandement, puisque c'est la nature de l'armée et de sa hiérarchie. Il faut quand même souligner qu'à son crédit, il a la défense de Kiev et la libération de la région de Kharkiv, mais également la défense de Bakhmout. Et la défense de Bakhmout, le raisonnement était un peu similaire à celui de la défense d'Avdiivka, à savoir essayer tout simplement de dégrader au maximum le potentiel offensif des forces russes en défendant pied à pied, maison par maison, immeuble par immeuble, cette ville, pour s'assurer que les Russes, quand bien même ils remporteraient une victoire, ce serait une victoire à la Pyrrhus, qui les ralentirait dans leur progression future. Donc certains, au sein de l'armée ukrainienne, surnomment Oleksandr Sirski le boucher. À titre personnel, j'estime qu'il est encore bien trop tôt pour juger de la validité ou non des stratégies qu'il a employées jusqu'à présent.
Guillaume, vous avez aussi suivi pour les échos des volontaires d'une ONG dans le Donbass, un article à lire et à découvrir sur le site leséchos.fr. Leur travail, récupérer les dépouilles des soldats, c'est un travail éprouvant mais nécessaire.
Oui, absolument. Il faut savoir que le fondateur de cette organisation, Oleksiy Yukov, est natif de Slaviansk, donc dans l'est de l'Ukraine. Ce projet a commencé avant même le début de la guerre dans le Donbass, lorsque, un peu par hasard, dans les forêts autour de Slaviansk, il a retrouvé des dépouilles de soldats soviétiques et de soldats de la Wehrmacht, qui dataient donc de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et il a créé l'association qui initialement s'appelait la Tulipe Noire, qui désormais s'appelle Platsdarm, pour exhumer et permettre l'identification de ces corps afin de pouvoir les rapatrier auprès de leur famille et leur donner des funérailles décentes. En 2014, lorsque la guerre éclate dans le Donbass, l'organisation a poursuivi ce travail, mais cette fois-ci, les corps ne dataient pas de 60 ou 70 ans, mais c'était à la fois des soldats ukrainiens et des miliciens séparatistes soutenus et armés par la Russie. Et depuis le début de l'invasion à grande échelle, Yukov et les membres de son organisation, tous volontaires, se rendent sur le champ de bataille, au plus près des combats, pour récupérer les corps et permettre leur rapatriement et leur inhumation. Et il faut savoir que Yukov, qui se décrit lui-même comme patriote ukrainien, bien que russophone initialement, désormais il est passé intégralement à la langue ukrainienne. Mais ce qui m'a frappé en parlant avec lui, c'est cette humanité dans le sens où il déteste la Russie pour les crimes et pour cette invasion criminelle de l'Ukraine. Et en même temps, il a beaucoup de compassion pour les morts et particulièrement pour leurs proches, en disant que la moindre des choses, c'est que chaque personne tombée sur le champ de bataille puisse au moins être rapatriée auprès de sa famille. Et c'est un travail ingrat, difficile, horrible, et qui a coûté la vie à déjà au moins l'un des volontaires de l'organisation, un jeune homme qui s'appelait Denis, qui était âgé de 21 ans, lors d'une mission, il a roulé sur une mine anti-tank. Donc pour aller récupérer volontairement les dépouilles de soldats, ils risquent leur vie.
La musique militaire résonne dans le centre de Kiev. Une cérémonie sobre et émouvante devant la cathédrale Sainte-Sophie.
Strunko !
À Kiev, en présence du président Zelensky, une cérémonie d'hommage aux soldats morts sur le front. C'était il y a un an déjà. La guerre a depuis fait encore de trop nombreuses victimes. Yves Bourdillon, vous êtes journaliste au service international des Échos et vous avez récemment écrit un article pour le journal « Ce que l'on sait des pertes humaines après 2 ans de conflit ». Un conflit meurtrier, le bilan parle de lui-même ?
Évidemment, puisqu'on dénombre au moins 500 000 soldats hors de combat, c'est-à-dire tués ou blessés, ce qui en ferait un des conflits les plus violents du 21e siècle sur 2 ans. D'autres ont été plus meurtriers, mais sur 15 à 20 ans. Et celui-là est très intense, avec un ratio d'à peu près 1 soldat tué pour 2 blessés. C'est un ratio assez meurtrier. D'habitude, il y a plus de blessés pour chaque soldat tué. Et là, on arrive à quelque chose qui représenterait, d'après Kiev, qui pour la première fois a annoncé un bilan, 31 000 soldats ukrainiens tués, probablement le double en fait, selon des estimations des services d'enseignement américains, britanniques et norvégiens. Et du côté russe, aucune perte n'est annoncée, mais des ONG ont dénombré 44 000 soldats tués avec leur nom et leur grade. Probablement en fait que ça tourne à 120 000 soldats tués. Il y aurait peut-être 2 fois plus de pertes du côté russe que ukrainien, parce que la plus grande partie de la guerre s'est déroulée avec des positions défensives pour les Ukrainiens, et c'est quand on attaque que l'on s'expose et que l'on a le plus de morts. Et puis, enfin, on termine avec les civils. Donc, 10 500 civils tués d'après l'ONU et d'après Kiev, probablement 5 fois plus, ne serait-ce que entre ceux victimes de crimes de guerre, des charniers n'ont pas encore été tous découverts, à Mariupol, etc., les bombardements. Donc, entre 10 et 50 000 civils tués.
Pourquoi est-ce que c'est compliqué, Yves, d'avoir un bilan plus précis des pertes ?
Alors déjà, il y a la censure, comme dans tous les conflits. Il y a la propagande où chaque camp essaye de faire croire que dans cette bataille, il a eu 2 blessés légers et a tué 1 000 soldats en face. C'est à peu près le genre de choses que l'on entend toujours depuis quasiment des siècles. Les deux camps, d'ailleurs, revendiquent d'avoir tué 390 000 soldats ennemis. Et puis, il y a aussi le brouillard de la guerre, parce que tout simplement, on ne sait pas ce qui se passe. On ne peut pas aller dans tel ou tel territoire dénombrer les soldats tués. Donc, on est obligé de pallier cela par des techniques. Donc, il y a les notices écologique dans la presse locale, des photos par drone qui comptent, c'est assez lugubre, les cadavres disséminés dans les champs, des photos géolocalisées de blindés détruits où on suppose qu'une partie de l'équipage a été tuée à cette occasion-là. Donc par ce biais, on arrive à avoir des estimations, mais qui sont évidemment très imparfaites.
L'Ukraine espérait à un moment que le niveau d'attrition des forces russes allait jouer en sa faveur. Le réveil a été brutal.
Totalement, parce qu'effectivement, les Ukrainiens pensaient qu'à force de tuer des Russes et de détruire des blindés, et notamment, on estime depuis des mois que la moitié des blindés dont disposait la Russie ont été perdus, et qu'à un moment, donc, la Russie s'arrêterait, parce que c'est assez classiquement ce qui se passe dans des guerres, quand une armée a perdu telle proportion de soldats ou de blindés, elle n'est plus opérationnelle, et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, parce que les pertes qui sont pourtant d'ores et déjà 10 fois plus élevées que lors de la guerre d'Afghanistan en 10 ans, qui avait contribué à la chute de l'URSS, n'empêche pas la Russie de continuer à envoyer, ils appellent ça le hachoir à viande, ou alors ils appellent ça les soldats à usage unique, ils montent au front et on sait qu'ils vont mourir, et c'est vrai que les soldats en question ne désertent pas, c'est surprenant, mais parce qu'ils savent que s'ils essayent de faire demi-tour, ils prendront une rafale de la police militaire. Et donc la Russie a une profondeur de banc de remplacement, de réserve, elle est 4 fois plus peuplée que l'Ukraine, donc elle envoie encore et encore, et puis elle dispose d'une industrie de l'armement qui permet aussi de remplacer une partie des pertes.
Guillaume, en face, l'Ukraine se pose la question du remplacement des soldats hors de combat ou usés par 2 ans de guerre. C'est une question politique complexe.
Très complexe, effectivement, puisqu'il faut savoir que, non pas que ce soit nécessaire de le rappeler, mais tout de même, la Russie, c'est un pays de 140 millions d'habitants. L'Ukraine, selon les derniers recensements, c'était à peu près 40 millions. Et encore, le consensus, généralement, chez les Ukrainiens, c'est que le recensement exagère un peu, à savoir, c'était plutôt de l'ordre de 35 millions plutôt que 40. Les Ukrainiens et l'armée ukrainienne, évidemment, a subi des pertes. Et par conséquent, il y a un projet de loi qui est discuté à la Rada, au Parlement ukrainien, qui vise notamment à abaisser l'âge de la conscription de 27 à 25 ans. Par ailleurs, cette loi prévoit aussi qu'au terme de 3 ans de service, les conscrits puissent être démobilisés et n'aient plus besoin de combattre. Donc c'est une loi qui essaie de ménager un peu la chèvre et le chou, dans un certain sens, mais il y a évidemment, c'est une évidence que l'Ukraine a besoin d'hommes, a besoin de soldats pour combattre et n'a pas les mêmes ressources humaine que la Russie. D'autant plus que la tactique ukrainienne, dans l'ensemble, vise à préserver la vie de leurs soldats, ce qui n'est absolument pas le cas du côté des Russes.
Soldat russe, rentre chez toi, chanson patriotique ukrainienne, inspirée de la chanson irlandaise qui invitait les soldats britanniques à se faire voir ailleurs. Mais il faudra bien plus que des chants pour repousser les troupes de Moscou. On le disait, la retraite d'Avdiivka s'explique aussi et surtout par le manque de munitions. Lorsque nous combattions dans la région de Lysychansk, nous pouvions tirer jusqu'à 300 ou 400 obus par jour, expliquait en décembre un capitaine ukrainien à Guillaume Tak. Désormais, il en tirait entre 20 et 40. Yves, pourquoi l'Ukraine manque-t-elle de munitions ?
Eh bien, déjà, c'est un conflit d'une très haute intensité, comme le monde n'en a plus connu depuis quasiment la guerre de Corée qui s'est achevée en 1953. Donc, actuellement, à un certain moment, l'Ukraine consommait chaque jour quasiment la dotation d'obus de l'armée française sur un trimestre. Donc là, il y a une intensité qui est phénoménale. Et aussi, l'Ukraine compte massivement sur les fournitures d'obus et de munitions de l'Occident, notamment les obus de 155 mm de dotation OTAN. Or, il y a un goulot d'étranglement parce que tout simplement, les Occidentaux, enfin du moins les Européens, étaient dans une espèce d'irénisme qu'on vivrait désormais une paix perpétuelle depuis la fin de l'URSS. Et donc, les industries d'armement ne produisaient plus d'obus. Elles produisaient des armes très sophistiquées qui, finalement, ne sont pas adaptées, puisque là, on a un conflit qui est à un aspect ultramoderne avec les drones, mais aussi un aspect 14-18, les tranchées et les obus. Et l'obus bête et méchant, qui n'est pas guidé, qui détruit par salve, eh bien, il est massivement utilisé sur le front. Les Russes, dont l'artillerie a toujours été un point fort historiquement, l'utilisent massivement. Et les Ukrainiens n'ont pas ce qu'il faut en face, ni par leur industrie, ni par les fournitures occidentales.
En enfoiré, Poutine est un enfoiré, son of a bitch. En anglais, les mots de Joe Biden qui s'est lâché. Le président américain reste un soutien de l'Ukraine, mais il ne peut rien faire sans la Chambre des représentants. L'aide à l'Ukraine est bloquée depuis quelques semaines. À quel jeu jouent les Américains, Yves ?
Ben, il faudrait dire à quel jeu joue Trump, parce qu'en fait, les Américains ont pour l'essentiel compris les enjeux géopolitiques majeurs, même si une partie de l'establishment sécuritaire était divisée sur l'opportunité de permettre à l'Ukraine de gagner la guerre de peur d'une déstabilisation, d'un éclatement de la Russie, qui est une peur absurde et exagérée pour tous ceux qui connaissent un peu la Russie, mais toutefois, il y avait une hésitation. Maintenant, il n'y en a plus, et d'ailleurs, on le voit dans les sénateurs républicains qui récemment, 22 sénateurs sur 48 ont voté pour le paquet d'aide de 60 milliards de dollars. Simplement, le problème, c'est que c'est à la Chambre des représentants, les représentants du peuple américain, où là, ce ne sont pas des très fortes personnalités, ce sont des gens qui dépendent de Trump et qui tient le parti. Et lui, il ne veut pas faire un cadeau à Biden, un cadeau électoral à quelques mois de la présidentielle, pour permettre de valider cette aide. Donc, il prend le risque, qui est un risque majeur sur le plan géopolitique, de laisser l'Ukraine se faire enfoncer par l'armée russe, parce que lui croit qu'en deux coups de fil, c'est ce qu'il dit, il passerait un deal, on ne sait pas lequel, avec Poutine, et il a peut-être une vision très naïve de la géopolitique, tout en n'étant pas non plus totalement prêt à accorder n'importe quoi à la Russie. On l'a quand même vu quand il était président, il avait fourni des armes, des missiles anti-chars à l'Ukraine, et il avait tenu tête à la Russie en Syrie. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être un positionnement géopolitique plus compliqué qu'on ne pourrait le croire, mais qui est quand même prêt à prendre le risque de voir l'Ukraine perdre beaucoup de terrain, beaucoup d'hommes d'ici le 5 novembre.
En face, la Russie canarde grâce à l'aide obtenue notamment par la Corée du Nord. Le pays a aussi musclé son industrie militaire. Pourra-t-elle maintenir le rythme ?
Alors, sur certains plans, oui. C'est-à-dire qu'en gros, la production d'obus non guidés, c'est quasiment infini chez elle. Et elle a une capacité à monter en puissance, elle le montre là-dessus. Sur d'autres plans, non, notamment les missiles de précision. On voit d'ailleurs que les salves sont de plus en plus rares. Et ce ne sont plus des salves, comme il y a un an et demi, d'une centaine de missiles en une nuit, mais de deux ou trois, de ci, de là. Donc, sur certains types d'armes, elle ne peut pas, même si elle dispose de capacités, notamment de fournitures par la Corée du Nord ou l'Iran, mais qui sont plutôt soit des drones un peu basiques, soit des obus à l'ancienne. Donc, on a un balancement entre sa capacité quasi infinie à fournir certains types de munitions et des limites qu'elle est en train d'atteindre sur le plan char de haut niveau. Elle n'a plus que des chars, des T-64 sur le terrain, qui, comme leur nom l'indique, ont été conçus en 1964, voire des chars encore plus anciens. Le problème, c'est que, comme elle a cette capacité de munitions infinie, la clé de la guerre ne sera pas dans l'épuisement de ses stocks de munitions, mais plutôt dans la capacité de l'Ukraine à reprendre l'initiative, peut-être dans 6 mois, si les Occidentaux lui fournissent ce qu'il faut, et par exemple en attaquant la Crimée, qui n'est pas très bien défendue, et dont la prise signerait peut-être un choc politique insurmontable pour le Kremlin.
Nous devons continuer à dégrader la machine de guerre de Poutine, a commenté sur X Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. L'UE qui a décidé de nouvelles sanctions contre la Russie après la mort de l'opposant russe Alexei Navalny. Le soutien occidental semble en tout cas un tournant. Lundi soir, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée plus de 25 chefs d'État et de gouvernement pour discuter de l'aide militaire à l'Ukraine. Il a rappelé d'abord que la défaite de la Russie est indispensable à la stabilité en Europe, mais il a dit aussi ceci.
Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu.
Pas de consensus, mais rien ne doit être exclu. Que faut-il retenir de cette déclaration, Yves ?
C'est une déclaration qui a de quoi laisser extrêmement perplexe, parce que évidemment, on se demande si le président ne s'est pas laissé emporter par son goût du disruptif, parce qu'il faut reconnaître que c'est quelque chose de vraiment grave d'envisager. Enfin, il n'exclut pas, Il ne dit pas qu'il faut le faire. Il n'exclut pas qu'un jour, il y ait des troupes occidentales au sol en Ukraine. Et donc, déjà, c'est plutôt rendre service au relais d'influence de Poutine en France, qui vont pouvoir dire, ils ont commencé à le dire, voilà, escalade, va-t'en guerre, Troisième Guerre mondiale, etc. Donc, je ne suis pas sûr que ça rende service, déjà, à la cause ukrainienne. Et puis, il y a aussi le fait que, objectivement, ça viole un tabou fondamental de la guerre froide, qui est que jamais un soldat de l'OTAN ne doit avoir un soldat russe en ligne de mire de son fusil, et réciproquement parce qu'il y a des bombes nucléaires derrière. Donc des troupes occidentales françaises, ou on dirait pas tout seul, britanniques, américaines, en Ukraine, ça viole ce tabou et c'est extrêmement préoccupant.
Il y a tout de même un élément important dans le discours d'Emmanuel Macron qui est de dire que la Russie ne doit pas gagner cette guerre. Là aussi, il y a quand même un tournant dans le phrasé ou en tout cas dans la volonté de l'Union européenne de s'investir un peu plus peut-être dans la victoire ukrainienne.
C'est pas un tournant majeur parce que finalement, avec des formulations un poil différentes, c'est à peu près ce qu'on dit depuis longtemps, que la Russie ne doit pas gagner. D'ailleurs, en fait, il y a une dissension entre certains qui disent il ne faut pas qu'elle gagne et d'autres qui disent il faut qu'elle perde. C'est-à-dire, il faut aider l'Ukraine à tenir le choc, voire à reconquérir tous ses territoires sans pour autant aller entrer sur le territoire russe. Donc ça, ce n'est pas un tournant majeur. Le tournant majeur, c'est cette déclaration qui, d'ailleurs, ne fait pas l'objet de consensus. La preuve, c'est qu'à ma connaissance, et là encore, c'est peut-être une erreur de l'Élysée, en tout cas de faire une déclaration qu'aucun autre pays occidental n'assume. Donc déjà, la France est un peu isolée en envisageant cette hypothèse qui a des portées très graves. Et puis, au passage, s'il faut envoyer des hommes en Ukraine, en fait, l'armée française n'est pas équipée pour, parce que tout simplement, en Ukraine, c'est une guerre de type Verdun, des tranchées et des salves massives d'obus. Or, l'armée française, elle, c'est plutôt une armée d'élite, avec des unités, des armes ultra-modernes. Mais ce qui se consomme en Ukraine actuellement, en une semaine, c'est la dotation annuelle d'obus de la France. Donc, on ne serait pas forcément adapté. Alors, en revanche, il y a un élément où le président a raison, c'est éventuellement, quand il parle de cela, c'est que c'est un secret de Polichinelle qu'il y a déjà des soldats occidentaux, des instructeurs qui forment, qui aident par du renseignement en arrière de la ligne de front de manière discrète. Bon, ça se fait dans tous les conflits. Les Russes font ça aussi depuis 60 ans. Donc, on se doute bien qu'il y a des forces spéciales françaises en Ukraine, comme il y en a en Afrique, et comme il y a des forces russes. Je vous raconte une anecdote. Pendant la guerre du Vietnam, les pilotes vietnamiens face aux pilotes américains, bah, ils se parlaient un peu en russe parfois.
Encore plus fort que dans Top Gun.
Dernière chance, tu vas y arriver. Allez, Maverick.
Sauf que ce ne serait plus du cinéma. En attendant, l'option évoquée par Emmanuel Macron est écartée par les différents partenaires de la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Pologne notamment. Yves, il y a quand même un changement de ton dans le discours des Européens à l'égard de la Russie de Poutine ?
Oui, bien sûr. La conférence de Munich, il y a deux semaines, où beaucoup d'interventions étaient catastrophistes et alarmistes, a fait prendre conscience aux dirigeants que oui, il fallait changer de braquet et qu'il fallait fournir beaucoup plus de munitions à l'Ukraine parce que jusqu'à présent, on pensait qu'elle allait gagner la guerre. On se demandait si quand elle la gagnerait. On se disait, bon, elle ne va peut-être pas la gagner, mais elle ne peut pas la perdre. Et là, la manière dont le front est grignoté par l'armée russe, qui a quatre fois plus de soldats, de possibilités de réserve et une quantité infinie d'obus à sa disposition, c'est ça l'élément clé, on commence à se demander si elle ne pourrait pas la perdre. Et là, il y a le feu au lac, si vous me passez l'expression. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, les déclarations des dirigeants occidentaux sont légitimes. Et celles du président Macron là-dessus, quand il a dit « il faut vraiment se réveiller », là, il n'a pas tort.
La Russie a envahi l'Ukraine il y a maintenant 2 ans. On connaît l'expression « on ne choisit pas ses ennemis, ce sont eux qui nous choisissent ». Guillaume, comment les Ukrainiens réagissent-ils à ce qui ressemble à un affaiblissement de l'aide occidentale ?
Je pense que c'est très important de rappeler que lors de chacune de mes conversations, ou presque, avec des soldats ukrainiens sur la ligne de front, lorsqu'ils s'adressent à des médias étrangers, que ça soit à moi en tant que Français ou à ma collègue Madeleine en tant qu'Américaine, la première chose qui revient, c'est de la gratitude. Beaucoup, beaucoup de gratitude pour les armes qui ont déjà été données, pour le soutien financier et militaire qui a été apporté à l'Ukraine. Mais il y a aussi la sensation que la guerre a été normalisée, qu'elle est passée à l'arrière-plan, que les gens petit à petit oublient que cette guerre se poursuit, continue de tuer des dizaines, voire des centaines de personnes chaque jour, qu'ils soient soldats ou civils. Il y a une véritable crainte que l'aide finisse tout simplement par s'arrêter. Et pourtant, la motivation des soldats ukrainiens est intacte. Ils le disent eux-mêmes. Nous sommes prêts à nous battre. Nous voulons combattre. Nous voulons défendre notre terre, notre famille, notre intégrité territoriale et notre droit à l'autodétermination, comme n'importe quelle autre nation. Mais donnez-nous les armes. Et souvent, ils le rappellent. Et je pense que c'est très important de souligner, ce n'est pas juste une question d'obligation morale. En 1994, le mémorandum de Budapest prévoit que l'Ukraine se débarrasse de son reste d'arsenal nucléaire hérité de l'époque soviétique en échange de garanties de sécurité fournies à la fois par la Russie, et on sait malheureusement ce que ces garanties valent, et par les États-Unis. Donc il y a aussi un certain sentiment d'être trahi et d'avoir été abandonné, et que les alliés occidentaux de l'Ukraine n'ont pas respecté leurs engagements vis-à-vis des garanties de sécurité du pays.
Merci Yves Bourdillon du Service international des Échos, et merci aussi à Guillaume Mtak, correspondant en Ukraine. Vous pouvez retrouver ses reportages sur leséchos.fr. Il fait un travail remarquable sur le terrain. Merci à Willy Gann pour la réalisation de ce podcast des Échos, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.